C'est l'heure du journal d'Estelle Schmitt. Bonjour Estelle.
Bonjour. Pas de grosse annonce attendue, mais un point sur l'épidémie de coronavirus et le déconfinement à venir. Explication cet après-midi d'Edouard Philippe, conférence de presse du Premier ministre. Alors que la mortalité reste haute en France, plus de 19 000 morts en tout, 642 en plus, 124 heures selon le dernier bilan. L'après-confinement, il sera progressif, mais il se prépare. Achat de masques par certaines mairies. Les hôtels et campings s'apprêtent également pour les vacances d'été. Pensez à demain, mais aujourd'hui, un confinement particulièrement difficile pour les plus précaires. À Marseille, la débrouille pour distribuer de la nourriture aux plus modestes. L'un des derniers foyers de contamination au Covid-19, le porte-avions Charles de Gaulle. 1046 marins sur 1760 testés positifs. Vous y reviendrez notamment avec votre invité à 8h20, Eric.
Oui, le chef d'état-major des armées, le général Lecointre. On évoquera aussi l'opération Résilience et les OPEX, les opérations extérieures de la France contre le terrorisme. Et vos questions au général Lecointre, 01 45 24 7000.
Dans ce journal également, des atteintes au cerveau chez certains malades du coronavirus. Médecins et études en attestent la vision du réalisateur britannique Ken Loach sur la crise que nous vivons, le geste de certains sportifs pour les soignants. Et puis un nouveau programme ce soir sur France 2, pastilles humoristiques autour du confinement. Au secours, bonjour.
France Inter.
L'exécutif s'est déjà livré à ce type d'exercice de pédagogie il y a 3 semaines. Édouard Philippe, le Premier ministre, Olivier Véran, ministre de la Santé, entouré de scientifiques. Conférence de presse cet après-midi vers 17h30 sur la crise liée à l'épidémie de coronavirus. Alors que plus de 19 300 personnes sont mortes en France et que le début du déconfinement est prévu à partir du 11 mai. Bonjour Cyril Gradiani.
Bonjour.
Point détaillé de la situation d'Edouard Philippe cet après-midi. Le Premier ministre également attendu sur les toutes premières pistes du déconfinement.
Alors, il n'y a pas de grande annonce attendue cet après-midi. Édouard Philippe renouvelle un exercice de pédagogie. La question des masques, de son port obligatoire, celle des maires qui seront les piliers de l'après-confinement, les tests et traçages, autant de questions auxquelles le Premier ministre devra répondre pour éclairer et rassurer les Français toujours inquiets quant à la suite de cette crise. À un peu plus de 3 semaines de l'échéance, le 11 mai, pas question pour le Premier ministre en revanche de trop s'étendre sur les mesures concernant le déconfinement. L'entourage du chef du gouvernement précise qu'il sera évidemment question de la stratégie, mais qu'il se contentera d'exposer les principales options qui sont à trancher. Ses ministres, en effet, planchent dessus depuis près d'une semaine et l'annonce du président. La première mouture des 17 chantiers du plan d'action de l'après 11 mai doit être présentée mercredi. Mais avant de parler déconfinement, Édouard Philippe veut surtout insister sur le respect scrupuleux des consignes. À l'orée du mois de mai et de ses ponts, l'exécutif craint en effet un relâchement.
Merci Cyril Gradiani à noter émission spéciale sur Inter après cette conférence de presse à partir de 19h20. L'après-confinement, on le répète, ce n'est pas encore pour tout de suite. Le déconfinement se fera progressivement, mais les oppositions veillent. Dans le journal du dimanche, aujourd'hui, 17 maires de gauche d'Île-de-France signent une tribune pour proposer au gouvernement un livre blanc des bonnes pratiques face aux épreuves type Covid. À Paris, la maire socialiste Anne Hidalgo, elle annonce la distribution de masques pour les Parisiens dès fin avril. 500 000 dans un premier temps, priorité aux personnes les plus fragiles. La ville de Paris qui va équiper lieux publics, écoles et bouches de métro, de distributeurs de gel hydroalcoolique. Anne Hidalgo également pour l'obligation de porter un masque aux heures de pointe dans les métros et RER. Tandis qu'à Valence, dans la Drôme, on amorce également le déconfinement. 64 000 masques, autant que d'habitants, achetés par la commune et distribués gratuitement sous enveloppe à partir de la semaine prochaine. Une vraie demande des habitants, selon le maire Les Républicains, Nicolas D'Aragon.
On peut pas les inviter à aller acheter les masques qui servent pour les professions médicales, ce serait simplement absurde. Donc j'ai décidé, tout début avril, de faire une commande à une entreprise dont le chef d'entreprise est valentinois et qui se situe en Savoie, de quoi équiper la totalité de mes concitoyens et qu'ils puissent se protéger et protéger les autres. On sait très bien que c'est un virus qui est extrêmement volatile et donc qui se transmet simplement en discutant, en étant en face d'une personne qui serait infectée. Donc c'est une demande de tout le monde. Comme j'ai passé la commande extrêmement tôt, ça va me coûter 1 euro par masque. J'en ai commandé un peu plus de 70 000, donc un peu plus de 70 000 euros TTC. Cette commande, elle m'aurait coûté plus de 200 000 euros si je n'avais pas commandé début avril.
Propos recueillis par Olivier Delagarde.
Eux se préparent également à l'après-confinement.
Les professionnels du tourisme en France, patrons d'hôtels ou encore de camping, ils le savent, les vacances d'été ne seront évidemment pas normales pour eux, mais ils espèrent sauver leur saison, alors ils investissent et mettent en avant un élément, Philippe Lefebvre, la sécurité.
Rassurer nos clients, cette phrase, tous les propriétaires d'hôtels ou de campings la prononcent en ce moment en joignant le geste à la parole puisqu'ils disposent désormais de fiches pratiques pour tous les corps de métier de l'hôtellerie et de la restauration élaborées avec le ministère de la Santé. Xavier Dupin est le directeur du réseau d'hôtels Esprit de France.
Que ce soit au niveau de check-in, que ce soit au niveau de l'accompagnement en chambre, que ce soit au niveau du petit déjeuner, que ce soit au niveau du bar, que ce soit au niveau du nettoyage des chambres, tous ces process sont à réétudier.
Même tonalité dans les 7900 campings de l'Hexagone où l'on met en avant l'espace qui faciliterait la distanciation sociale. C'est le cas d'Aurore Laroche qui dirige Esterel Caravaning, un camping de 19 hectares situé dans le Var.
Vous voyez, par exemple, nous avons dans les campings des snacks. Et bien, à ce moment-là, organisons les livraisons. Les gens ne sont pas obligés de venir se déplacer. Nous, on l'a déjà la livraison ici chez nous directement. Bon. Donc, on peut mettre plein de choses en place. On peut, par exemple, enlever une table sur deux. On peut enlever deux transats sur deux et ainsi de suite. Et on peut créer de l'espace parce que nous avons, nous, dans l'hôtellerie plein air, de l'espace.
Enfin, dès la semaine prochaine, un label mis au point par le groupe hôtelier Accor et le bureau de certification Veritas désignera les établissements qui respectent ces nouvelles règles sanitaires.
Philippe Lefebvre, et la crise due au coronavirus devrait faire chuter le PIB français d'au moins 8% cette année en fonction de la durée du déconfinement jusqu'à la reprise complète. Analyse du gouverneur de la Banque de France, François Villeroy de Gallo, dans le journal du dimanche. Le confinement qui accentue les difficultés sociales, chômage partiel, associations d'aide qui fonctionnent au ralenti en ce moment. Certains ont plus que jamais du mal à joindre les deux bouts, voire carrément à se nourrir. D'où ces initiatives qui se mettent en place localement, comme dans les quartiers nord de Marseille, dans la cité populaire de la Maison Blanche. Distribution de nourriture organisée plusieurs fois par semaine. Reportage Noémie Bonin.
Avancez, madame, avancez. Au pied de l'immeuble, la file d'attente serpente sans qu'on en voie la fin. Le Mistral soulève la poussière.
C'est la débrouillette, comme on dit.
Nadia est au chômage, ne voit pas d'assistante sociale en période de confinement. La débrouillette, comme elle dit, c'est plus dur en ce moment.
On ne peut pas manger midi soir de la viande avec des légumes, quoi, un plat principal.
Alors comme Nadia, ils sont nombreux à patienter ici, parfois avec les enfants.
Il y a trop de monde.
Riyad découvre, lui, la distribution. C'est sa première. Ce jeune Tunisien vit avec sa compagne enceinte de jumeaux.
Depuis le confinement, on est dans la merde vraiment. Hier, ma femme, elle est au 16e mois, tu vois. Elle n'a rien trouvé dans le frigo, il a failli te faire mal à l'aise.
Jusqu'à 650 colis sont distribués à chaque opération, plusieurs fois par semaine.
On pense que les gens méritent au moins ça, de se nourrir correctement.
Nahir Abdallah fait partie des créateurs du collectif d'animation du quartier Maison Blanche. L'aide d'urgence, comme ça, ce n'est pas du tout son domaine. Mais là, tous les repères habituels ont disparu.
Les gens, ils travaillent au black. Il n'y a aucune attestation d'employeur. Ou certains ont des aides qui vont jusqu'à 300-400 euros. C'est pas suffisant.
Il n'y a plus de couches, madame.
On s'active, une camionnette arrive.
Des poivrons.
Un autre collectif vient livrer des légumes de récup.
Ça, les gars.
Une toute petite partie des colis est donnée par le Secours Populaire. Le reste, ce sont des dons de nourriture ou d'argent.
Reportage signé Noémie Bonin. Et pour la première fois depuis l'appel de l'hiver 54 de l'abbé Pierre, l'association Emmaüs lance un appel aux dons. Elle a besoin de 5 millions d'euros en urgence pour ne pas fermer de centre dans les semaines à venir.
Et lui a consacré une grande partie de sa carrière au cinéma à dénoncer les injustices sociales.
Dans cette crise du coronavirus, le Britannique Ken Loach n'est pas tendre envers son pays, son système de santé et la gestion du gouvernement de Boris Johnson. Alors que plus de 15 000 personnes sont mortes au Royaume-Uni, bilan qui ne tient pas compte des maisons de santé. Olivier Poujade, envoyé spécial à Londres, a pu s'entretenir par téléphone avec le cinéaste aux deux palmes d'or proches des travaillistes.
Il se dit absorbé par le récit des conséquences de cette crise dans les journaux, à la télévision, profondément choqué aussi par le décompte quotidien des victimes.
C'est un énorme scandale. Les infirmières, les docteurs, mais aussi ceux qui préparent à manger, les gens qui font le ménage. La plupart d'entre eux n'ont pas d'assurance. Ils sont exploités par des compagnies privées. Tous devraient intégrer un système de santé public. C'est ce que cette crise révèle.
À 83 ans, Ken Loach explique qu'il n'a pas quitté une seule fois depuis près d'un mois sa résidence au sud-ouest de Londres, une vie confinée qui ne serait pas possible, dit-il, sans l'aide des habitants de son quartier.
Pendant les crises, les gens deviennent de bons voisins, dans le sens où l'on se sent plus responsable les uns des autres. Mais tout cela n'a aucune place dans la politique d'aujourd'hui. Nos politiques se basent sur la division des classes, le travail pas cher, le profit, les inégalités. Rien ne changera tant qu'un leader politique ne tirera pas les leçons de ce que cette crise nous apprend, de ce qu'elle nous coûte, en mettant ça au centre d'un virage politique.
Le confinement n'a pas éteint la rage du réalisateur militant, mais Ken Loach constate avec amertume que personne ne porte aujourd'hui cette volonté de changement sur la scène politique britannique.
Et dans le monde, La pandémie de Covid-19 a fait plus de 150 000 morts. Pays le plus touché, les États-Unis, où le président Trump met en garde la Chine contre d'éventuelles conséquences si elle était sciemment responsable de l'épidémie. Ce sont ses mots.
Les scientifiques le constatent et plusieurs études le confirment. Les patients atteints par le Covid-19 ont des atteintes au cerveau.
Confusion, délire, voire AVC dans les cas les plus graves, à tel point que pour les médecins, une confusion mentale devrait être considérée comme un signe potentiel d'infection, tout comme la fièvre ou la toux. Explication Véronique Julia.
À l'hôpital de Garches en région parisienne, où il dirige le service de réanimation, le professeur Djilali Annane estime à 10% le nombre de ses patients atteints de Covid et qui présentent des troubles neurologiques. Confusion mentale, agitation, problèmes de motricité, paralysie, syndrome de Guillain-Barré, des troubles associés ou non à des problèmes respiratoires, comme chez ce patient récemment décédé.
Il s'est mis à présenter des pertes de connaissance, à avoir une confusion mentale et à plonger dans un coma. Il est très vraisemblablement décédé de l'atteinte neurologique liée à son Covid-19.
Pas d'explication claire encore à ce phénomène, mais trois pistes sont avancées.
La première hypothèse, c'est que le virus atteindrait le cerveau par voie sanguine. La deuxième hypothèse est que le virus atteindrait le cerveau à partir du bulbe olfactif, c'est-à-dire que le virus pénètre par les fosses nasales, puis ensuite se propagerait en profondeur. Enfin, il y a une troisième hypothèse, c'est que ça ne serait pas une atteinte directe du virus sur le cerveau, mais l'inflammation en réponse à l'infection virale qui irait occasionner des dommages cérébraux.
Le phénomène n'étonne pas le spécialiste, la grippe peut donner lieu à des complications de ce type, et les coronavirus sont connus aussi, précise-t-il, pour avoir certaines affinités avec les tissus nerveux, au même titre que la perte du goût et de l'odorat, une confusion mentale ou une agitation peuvent, en tout cas d'après lui, être des signes à ne pas négliger au diagnostic.
Véronique Julia, les soignants mobilisés en première ligne face à l'épidémie de coronavirus et remerciés pendant plus de 6 heures hier soir et cette nuit. Événement mondial retransmis dans le monde entier. Concert, humour, témoignage, One World Together at Home à retrouver ce soir sur Inter entre 21h et 23h. Des dizaines d'artistes du monde entier confinés chez eux. Paul McCartney, les Rolling Stones, Beyoncé ou encore la Française Christine de Queen, amenée par Lady Gaga, tous derrière l'Organisation mondiale de la santé et l'ONG Global Citizen, appelle à contribuer au fonds pour le Covid-19 créé par l'OMS, quelques 150 millions de dollars déjà récoltés. Générosité également de la part du monde du sport, pas d'événements communs, mais des initiatives comme des défis ou encore des ventes aux enchères, Guillaume Batin.
Il ne peut plus pédaler dehors, alors le cycliste gallois Geraint Thomas, vainqueur du Tour de France 2018, a monté dans son garage son vélo sur des rouleaux. Merci à tous pour vos dons, mais les deux dernières heures de ce défi ont été les deux heures les plus dures de toute ma carrière. Et après 36 heures d'efforts répartis sur 3 jours, son défi a rapporté pas moins de 300 000 livres sterling, près de 350 000 euros, une somme qui sera reversée à la NHS, le système de santé britannique. D'autres sportifs au grand cœur se sont mobilisés, les basketteurs de la NBA aux États-Unis et de très nombreux footballeurs. L'attaquant du PSG de l'équipe de France, Kylian Mbappé, a été remercié pour son geste par la Fondation Abbé Pierre. Les hôpitaux de Barcelone ont reçu 2 millions d'euros versés à parts égales par le sextuple ballon d'or Lionel Messi et l'ancien entraîneur du Barça Pep Guardiola.
Guillaume Batin.
Un œil sur les écrans télé avec France Télévisions qui transforme la crise du Covid-19 en atout de création.
Avec cette série de 5 minutes diffusée à partir de ce soir. Au secours, bonjour, nouveau programme évidemment pour contrer l'absence de tournage actuellement et qui parle de notre confinement. Scénette humoristique, on en a bien besoin en ce moment et véritable prouesse de fabrication, Corinne Pellissier.
Un duo comique, un téléphone, la recette n'est pas nouvelle et a largement fait ses preuves à la télévision.
Service à Brabant, bonjour.
Oui, nouvelle chose exaspérante.
Sauf que la mise en scène, cette fois, est confinée, avec des modules tournés uniquement au smartphone et des délais de fabrication totalement inédits pour ce genre de programme.
Il s'est passé 9 jours entre le moment où on a pris la décision et le moment où ça va être mis à l'antenne.
Anne Holmes, directrice de la fiction à France Télévisions.
Ça a été vraiment une volonté, pas d'obligation, mais une sorte de devoir du service public de faire aussi rire dans des moments où la France n'est pas forcément en train de rigoler tout le temps, quoi. Et en plus, je pense que le concept permet des situations déclinables à l'infini. Vous avez le télétravail, vous avez l'école à vos enfants, vous avez comment on fait les courses. Ce genre de choses, si on ne le fait pas avec l'adrénaline, on ne le fait jamais.
Résultat, tous les soirs, 5 minutes de sketch avec des comédiens, Marina Foïs, Jean-Paul Rouve, Manu Payet, Géraldine Nakache, tous bloqués chez eux, comme nous, et confrontés à tout un tas de situations domestiques inextricables qu'ils tenteront pourtant de dénouer par téléphone avec deux experts improvisés, Alice Belaïde et Loïc Legendre, nouveaux camarades d'infortune de nos soirées télé, au minimum jusqu'au 11 mai.
Voilà, au secours. Bonjour sur France 2 à partir de ce soir, 20h55.
Au secours et au revoir. Estelle Schmitt, c'était le journal.